Le journal Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la réouverture de la mosquée de Bayonne avec des fidèles. On l'entendra encore sous le choc après l'attaque de lundi. Le tireur lui a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat mais pas pour attentat. Pourquoi son acte n'est-il pas considéré comme terroriste? Nous entendrons l'analyse de l'ancien juge d'instruction Marc Trévidic. Dans ce journal également, l'annulation de la 25e conférence pour le climat au Chili, aux prises avec des manifestations depuis presque 15 jours. Nous serons sur place. Nous irons également aux États-Unis où la procédure de destitution contre Donald Trump entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. À suivre un reportage dans un campement sauvage au milieu des vignobles bordelais où vivent notamment des saisonniers étrangers sans eau ni électricité. Et puis pour finir, un petit plaisir coupable avec une tournée de boys band. Saut années 90, ça commence ce soir.
Le secrétaire d'État chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd à 7h50.
France Inter.
Direction Bayonne pour commencer, Sébastien. Bayonne, où la mosquée frappée par une attaque en début de semaine a rouvert ses portes hier après-midi.
Elle était fermée depuis lundi, depuis que Claude Cinquet, cet octogénaire d'extrême droite, avait tenté d'incendier l'édifice, puis tiré à plusieurs reprises sur deux personnes âgées, toujours hospitalisées. Trois jours après, la mosquée a donc accueilli ses premiers fidèles, encore traumatisés, comme Abdelhaïd qu'a rencontré Anthony Michel.
Content de faire la prière déjà, et dans notre lieu de culte. Et après, l'angoisse, ça reste toujours. Espérons qu'on va trouver la sérénité et la paix, quoi. Ça perturbe pas que la mosquée, ça perturbe le quartier, ça perturbe la société, ça perturbe la ville. Au niveau national, tout le monde en parle. En plus de ça, il y a des victimes, quoi, qui sont toujours en danger, quoi. Et nous, on vient prier, mais bon. Prier la paix.
Pour rassurer la communauté et par mesure de protection, une voiture de police protège désormais 24 heures sur 24 l'entrée du lieu de culte.
Quant au tireur, Sébastien, il a été emprisonné hier soir.
Oui, la justice attendait les résultats des premières expertises psychiatriques. Conclusion, le suspect, bien qu'instable psychologiquement, est bien responsable de ses actes. Il est donc mis en examen, notamment pour tentative d'assassinat, mais pas pour attentat. Le caractère terroriste de l'attaque n'a pas été retenu, ce qui n'étonne pas l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, qu'on l'écoute.
Il faut surtout rester calme et puis analyser et par l'enquête découvrir si derrière un acte isolé on a quelque chose qui n'est pas du tout structuré, qui est l'acte d'un déséquilibré ou pulsion passagère comme ça, ou quelque chose de plus organisé avec une structure. Parfois on va prendre parce qu'au bout de deux jours on a quelques indications, ça peut être une radicalisation, des contacts avec des salafistes, et puis après au fur et à mesure de l'enquête on va se rendre compte que ça finalement c'était pas grand chose, qu'il y a des explications. Bon, on peut se tromper, hein. Ça, c'est les enquêtes qui nous le disent. C'est pas quelque chose qu'on dit a priori. Si on qualifie tout de terrorisme, après, plus rien ne le devient. Pourquoi vous créez un parquet national antiterroriste avec 26 magistrats spécialisés si c'est pour lutter contre des gens qui pètent un câble? Avant d'être à l'instruction antiterroriste, j'ai été procureur antiterroriste à Paris. Et à partir de 2001, j'avais 100 appels par jour de parquets locaux, de gendarmerie locale qui me demandaient de me saisir d'affaires qu'ils estimaient terroristes. On voyait des terroristes partout. Si je l'avais fait, on aurait noyé le système. C'est un art difficile.
Voilà l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic avec Laurélie Carrie, va retrouver en longueur sur le site franceinter.fr une analyse contestée toutefois par la famille des victimes et leur avocat pour qu'il s'agit bien d'un acte terroriste et qui vont demander une audience aujourd'hui avec le procureur général antiterroriste à Paris. Direction le Chili maintenant, secoué par une crise sociale depuis près de deux semaines et qui doit renoncer à organiser la COP25. Le pays est confronté à des manifestations contre les inégalités sociales depuis le 18 octobre qui ont déjà fait 20 morts. Face à cette fronde sans précédent, le président chilien a donc décidé d'annuler l'organisation de ce sommet international très attendu, la 25e conférence pour le climat, pour, dit-il, donner la priorité à ses citoyens. Une décision attendue et saluée par les manifestants. Reportage dans les rues de Santiago de Justine Fontaine.
Pour le 13e jour consécutif, des milliers de manifestants se sont réunis Plaza Italia dans le centre de Santiago. Romy Jorquera, la trentaine, n'est pas surprise de cette décision du président.
Le pays est concentré en ce moment sur d'autres choses, les demandes sociales. C'est ça qui intéresse les Chiliens maintenant. Donc ça ne me surprend pas qu'il ait annulé la COP et la PEC.
Ignacio Silva est étudiant. Il manifeste presque tous les jours depuis deux semaines. Il est satisfait de l'annulation de ces deux sommets internationaux.
On a montré que le soi-disant paradis néolibéral chilien n'était qu'un mythe. Le gouvernement ne va pas focaliser centrer son attention sur l'APEC ou la COP, mais plutôt sur la manière de résoudre la crise sociale qui traverse le pays.
Pour un autre manifestant, enfin, il aurait été inacceptable que les dirigeants de la planète se réunissent à Santiago pour la COP25, alors que, dit-il, la répression continue dans les rues. D'après le parquet national chilien, au moins 23 personnes sont mortes depuis le début des manifestations, dont 5 au moins auraient été tuées par des membres des forces de l'ordre. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
On revient en France avec une journée moins chaotique en vue pour les passagers des TGV Atlantique. 8 trains sur 10 prévus aujourd'hui et jusqu'à dimanche grâce à des rames SNCF. D'autres régions basculées sur la région ouest. À noter ce matin que la circulation des trains est interrompue en gare d'Orléans. Nouveau coup dur pour Boeing après l'affaire du logiciel des 737 MAX, toujours cloué au sol. L'avionneur américain fait face à un nouveau défaut technique, des fissures structurelles apparues sur des appareils en Australie. 50 Boeing de la catégorie NG ont été ainsi immobilisés dans le monde.
7h36, la suite du journal et un nouveau pas franchi dans la procédure de destitution du président américain.
Une procédure lancée il y a 5 semaines, on le rappelle, suite à des pressions de Donald Trump exercées sur l'Ukraine pour obtenir des informations contre son rival à la présidentielle, Joe Biden. Après la déposition très à charge d'un colonel de l'armée américaine ces derniers jours, c'est une décision de procédure, mais très importante, qui sera actée aujourd'hui. Le Congrès, à majorité démocrate, s'apprête à donner un cadre formel à ces auditions et à autoriser notamment les auditions publiques. Les précisions de Loïc Loury.
Les démocrates vont-ils tous se ranger derrière leur chef de file Nancy Pelosi? Certains républicains sont-ils prêts à lâcher leur président? Voilà quelques-uns des enjeux de ce vote de procédure, dont l'adoption en revanche ne fait aucun doute. Mais le contenu également a son importance. Le texte d'abord fixe le cadre de futures auditions publiques. Les républicains seront enfin autorisés à participer aux interrogations. Par la suite, il encadrera également le droit pour Donald Trump de se défendre, même si les démocrates auront alors toute latitude pour refuser les requêtes de la Maison-Blanche. Objectif pour l'opposition, couper court aux critiques, les républicains dénonçant depuis des semaines une procédure opaque et injuste. Mais la Maison-Blanche persiste, ce cadre, dit-elle, est une arnaque. Elle préfère, lui rétorque, les démocrates se concentrer sur la procédure pour ne pas regarder le fond de l'affaire, à savoir les pressions exercées par Donald Trump sur l'Ukraine pour son bénéfice personnel. New York, Loïc Loury, France Inter.
Comment rendre la Seine-Saint-Denis plus attractive? Le Premier ministre Édouard Philippe, accompagné de 5 ministres, doit annoncer aujourd'hui 23 mesures, notamment une prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonctionnaires qui resteront plus de 5 ans en poste. Partons maintenant pour un autre département, la Gironde, surtout connu pour ses vignobles bordelais, mais moins pour ses squats. Or, depuis plusieurs années, c'est un campement sauvage qui s'est installé sur les ruines d'un ancien château du Médoc, à Saint-Laurent-du-Médoc exactement. Un campement qui abrite des dizaines, voire des centaines de travailleurs étrangers, parfois des saisonniers, mais aussi des chômeurs ou des personnes marginalisées. Et tous vivent dans des conditions insalubres. Mélanie Juvet s'est rendue sur place.
Au milieu des ruines du château Pergançon, des tentes de fortune s'entassent, des camping-cars ou encore des camionnettes. Ici, pas d'accès à l'eau ni l'électricité. Loli, 49 ans, est espagnole. Après les vendanges, elle part faire la récolte des kiwis.
C'est une folie de vivre ici avec aussi peu d'hygiène. Il nous faut un minimum de confort parce que les gens font leurs besoins n'importe où, ne peuvent pas se doucher alors que nous devons travailler. Et s'ils nous disent qu'on ne peut pas rester alors qu'ils fassent un campement pour tous les gens qui viennent et qui en ont besoin pour travailler.
Des Espagnols ou encore des Portugais et des Bulgares. Certains restent ici entre deux contrats de travail, d'autres n'en ont pas ou sont marginalisés. Hélène Delmouly a 49 ans. Cette habitante de Pauillac vient régulièrement les aider.
Déjà qu'il y a la barrière de la langue, ils ne savent pas comment faire. Partout où ils vont, ils se font rejeter. Et c'est vrai que là, dans la commune actuelle, il n'y a rien. Tout le monde est au courant, mais ça paraît juste normal.
Elle veut alerter les pouvoirs publics pour mettre le site aux normes ou créer des aires d'accueil.
Et puis que tout le monde se mette ensemble avec des partenariats, avec les élus. Tout le monde, en fait, ça s'appelle juste l'humanité.
La ville de Saint-Laurent-Médoc dit prendre le sujet au sérieux, mais être démunie. Le maire a pris un arrêté de mise en péril du site il y a quelques mois. Mais d'après lui, le propriétaire de ce terrain privé n'a rien changé.
Le reportage de Mélanie Juvet de France Bleu Gironde.
Et on termine, Sébastien, avec une séquence nostalgie pour tous ceux qui ont aimé danser au rythme des années 90.
Oui, vous, Ali, qui avez mouillé la chemise, je le sais, sur le son des Larusso, G-Squad, Worlds Apart et autres boys band. Eh bien, votre rêve le plus fou va enfin se réaliser. Une tournée Born in 90 commence ce soir. 25 concerts pour replonger au début d'une house décomplexée, le de renouer avec votre adolescence. Delphine Evenou.
Chemise ouverte sur torse aussi huilé que les chorégraphies. 20 ans après, le verdict de Delphine, trentenaire et sans appel.
C'est ringard.
Et pourtant, à l'approche du concert.
Je suis toute excitée, comme à 15 ans. Je ne sais même plus quelle couleur était le mur de ma chambre, tellement il y avait des posters. On achetait à l'époque des magazines qui sortaient tous les mois. J'avais tout, j'avais les WhatsApp, les Backstreet Boys, les G-Squad, ils y étaient tous, tous, j'en loupais pas un.
Et certains seront bien sur scène, dont son chouchou.
Alan Théo.
Emmène-moi.
Bien sûr, Alan Théo.
À l'époque, les cris de groupies sont stridents, mais si aujourd'hui les places se vendent, c'est aussi parce que les années 90 ont une identité musicale forte, assure Damien Silver. C'est le directeur musical de la tournée.
Il y a vraiment l'arrivée déjà de tout ce qui est dance. Et au-delà de ça, je pense que l'influence anglo-saxonne à cette période a permis à par exemple La Rousseau d'avoir de tels succès. Ce groove anglo-saxon en français, ça c'est des couleurs qu'on n'avait pas forcément dans les années 80.
Delphine, elle, a pris ses places il y a un an et demi. Elle sera au premier rang en tenue.
J'ai prévu la salopette, j'ai toujours les buffalos, le petit bandana. C'est vraiment le temps d'un soir où on a de nouveau 15 ans.
Le spectacle d'une génération qui a peut-être besoin de retrouver son doudou.
Chaude ambiance dans le studio, la tournée Born in 90, si ça vous tente toujours, commence ce soir au Zénith de Rouen.